Là, ils sont obligés de décider eux autres, mais les autres, quel groupe qu'on a avoir cet argent-là. Et dans la phase 2, on leur a donné 24 940 000. Mm-hmm. C'est eux autres qui ont décidé quel groupe communautaire qui allait être les premiers et quel groupe qui était la priorité. Oui. On a dit la première priorité, ça va être les centres et sans-abri. S'assurer qu'il y a un lit pour les sans-abri. Oui. S'assurer que le lit dans l'hébergement, que moi et toi, on pourrait aller coucher là. Puis qu'il n'y aurait pas peur d'aller coucher là. Et que nos hébergements auraient des bons lits, auraient la sécurité. Mais c'est pas tout le monde qui veut rentrer dans nos hébergements. On a des personnes qui sont chroniques. Fait, il y a des communautés qui sont obligées d'ouvrir des hébergements pour les personnes qui sont sur la drogue ou qui sont des alcooliques. Mm-hmm. Ensuite de ça, il y a d'autres hébergements pour qui soient rentrés pour des personnes qui vont avoir des chiens, des chats, des petits serpents, des rats. Parce que on a nos sans-abri qui ont des animaux. Mm-hmm. Et si on les laisse pas rentrer avec nos animaux, ils vont pas vouloir rentrer dans nos hébergements. Fait, faut s'assurer que on rencontre le besoin de la personne sur la rue.
C'est ça. En fait, donc, les différentes initiatives s'assuraient que les différents besoins étaient traités de la façon dont ils devaient être traités à l'intérieur même des différentes villes.
C'est ça. Oui. Puis c'est eux autres qui décidaient qu'est-ce qui était leur besoin. C'est eux autres qui décidaient, après que le plan avait été fait, qui c'est qui allait avoir cet argent-là. Ensuite, l'autre priorité, c'était de s'assurer que les cuisines aient assez d'argent. Les cuisines avaient eu besoin d'avoir un poêle, il y avait-il besoin d'avoir un congélateur, il y avait-il besoin d'avoir d'autres tables? Y a-t-il des communautés qui avaient besoin d'une plus grande cuisine, mm-hmm, pour donner à manger aux personnes? Ça, c'était nos deux premières priorités. Une fois que ces deux priorités-là étaient rendues, on a commencé à travailler avec nos organismes communautaires pour ouvrir des maisons transitoires avec du support. Parce que les personnes qui peuvent aller rester dans une maison toute seule, faut mettre de l'argent dans des maisons abordables. Mm-hmm. Mais pour les sans-abri, on a plusieurs sans-abri qui ont besoin du logement à support. Fait, nous autres, on est en train d'encourager, une fois que les hébergements sont bâtis, qu'on a assez de lits, une fois qu'on a fait nos cuisines, on a ensuite besoin de travailler avec des maisons transitoires.
Oui. Est-ce que je peux prendre 2 minutes pour traduire un petit peu,
oui,
ce que vous venez de parler?
Oui.
So, Madame Bracha was talking about the different initiatives that they actually have when she was talking about the way that these initiatives were actually taken by the people in the different communities, not just big, like not just big cities, but actually different communities, when everybody would look at the problems and try and fix them. So if, for example, they needed housing, and the different way they needed housing was that they needed housing, for example, for squeegee kids who had dogs and stuff, and most of the time there was nobody to offer that, they actually gave some money so that there was an access to housing for that kind of person. So this is,
okay,
yes, this is all the time we have. Thank you very much, Minister Bracha, to have taken these minutes to answer some of our questions. And I hope everything is fine with your father. Thank you very much.
You have no idea what it means to me and my staff to have so many young people care so much about the people that are out there working day in and day out, but especially that you would do this, because every homeless person has a story, and every homeless person is a person. And maybe if they had the chance that we had, they wouldn't be on the street tonight.
Well,
so I want to thank all of you for what you're doing, and my staff wants to thank you, but especially the homelessness people want to thank you.
Well, thank you. And if every minister spent 6 weeks walking around everywhere in Canada looking at the realities of homeless people, I'm sure more people would be interested like you are. Thank you so much once again.
Thank you, my dear friend.
Thank you.
Have a nice evening. Bye-bye.
You too. Alors, c'était la ministre Bracha qui nous félicitait pour notre initiative ici. Et je l'ai seulement à féliciter aussi pour avoir passé 6 semaines, ce qui est quand même exceptionnel pour une ministre. C'est très rare. Je connais pas d'autres ministres vraiment qui aient fait ça. Passer 6 semaines à l'extérieur et courir un peu partout pour voir les différents hébergements, les différentes façons de régler les problèmes. Qu'est-ce que t'en penses, Andy?
Ouais, c'est vrai. C'est rare, c'est rare. C'est bien bizarre, ça.
Moi, il y a tellement de questions qu'on aurait pu poser, mais le temps défile et on a des personnes à parler. Il manque peut-être juste seulement un invité. Maybe we can start with, is Dr. Farquhar on the phone?
Yes, I'm here.
Hello. Dr. Farquhar is actually a psychiatrist who works, you still work at Douglas Hospital, don't you?
That's right.
And you have done research on deinstitutionalization and mental illness in the street. Is that correct?
Well, I've done public relations and I've tried to help people know more about it.
Mm-hmm. Maybe I can ask you a first question. I will introduce the different people, like, as soon as they come. How do you think deinstitutionalization has affected the number of people on the streets in Montreal? I know it was a big problem 10 years ago, and how has it changed also?
Well, for people who haven't heard the word deinstitutionalization, it just means the trend in the last 30 or 40 years for big or small psychiatric wards or hospitals to get patients out of hospitals and living out in the community. And mostly that's considered to be a good thing. But in the last 20 years, it's contributed a lot to homelessness. Especially in the last 7 years, the number of hospital beds for psychiatry in Quebec was cut in half, from 6,000 to 3,000 across the province, in an initiative of the Parti Québécois government, when they were cutting all health services. And there was a survey done about 4 years ago by the Quebec government showing that there were at least 3,000 people who were homeless in the Montreal area who had a home 3 years before. So they were newly homeless people, and they were mentally ill. And this happened at the same time as they were cutting these number of psychiatric beds by 3,000 in the province.
Yeah, and I will just translate really fast what you've been saying. Alors, Dr. Farquhar,
I hear you.
Sorry?
I didn't hear you.
I'm going to translate in French about what you've just said, just so that people can understand in French what you've just said. OK. Alors, Dr. Farquhar est en fait un psychiatre qui vient de l'hôpital Douglas et il a beaucoup fait de recherches sur la désinstitutionnalisation et sur le fait que la désinstitutionnalisation a augmenté, en fait, la quantité de personnes itinérantes à Montréal et que le phénomène de mettre des personnes carrément à la rue, malheureusement, parfois, mais tu sais, parfois en transition, mais la transition ne fonctionnait pas, donc les gens se ramassaient à la rue, a fait en sorte, depuis les 10 dernières années, qu'il y a eu énormément une croissance sur des gens qui sont vraiment pas autonomes et qui se ramassent donc à la rue avec énormément de problèmes de santé mentale, qui fait en sorte que ça cause beaucoup de problèmes, par exemple, pour les personnes qui tentent de les aider. Donc, sur mon panel de discussion, j'ai aussi Annie Sanson.
Bonjour.
Enchantée. Qui est conseillère municipale d'Angeary. Donc, ça comprend Saint-Michel,
Parc-Extension.
Exactement. Et vous êtes de Vision Montréal et critique en matière d'habitation et d'urbanisme. Je sais très bien que vous aviez fait, en fait, le prescottomètre pour savoir, pour les 5000 logements qui sont promis depuis belle lurette maintenant et qui n'ont toujours pas, il y en a seulement 700, je crois, maintenant.
640
qui sont construits ou qui sont en construction, en fait, présentement. Et peut-être vous poser une première question. Comme vous êtes justement critique en logement, qu'est-ce que vous pensez de ce qui est en train de se passer présentement? Parce qu'ils ont maintenant un an pour terminer le tout. C'est quand même rapide pour presque 5000 logements.
Bien, écoutez, après avoir fait un calcul rapide des chiffres, il y a 2 ans, on nous a promis 5 000 logements en 2 ans, et je pense que la crise du logement est là. Si on est ici aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème de logement, surtout aussi pour les itinérants, les sans-abri, c'est important. Alors, la Ville doit travailler dans ses programmes. La raison pour laquelle on avait fait un prescottomètre à l'époque, c'était M. Prescott qui était porte-parole du dossier. Heureusement, ce n'est plus lui, parce que le dossier n'a pas levé comme ça devait lever. Je pourrais vous dire qu'à ce jour, on en a 640 logements de construits sur 5000. Il y en a au total 900 encore en voie ou en projet. donc en projet définitif. Et les autres, on n'en parle même pas parce qu'ils sont encore sur la table de destin. Donc, on parle de 640 logements livrés en 2 ans et demi. Si les chiffres continuent comme ça, si la tendance se maintient, comme on dirait à la télévision, mais dans 15 ans, on aura atteint notre objectif de 5 000 logements. Alors, je pense que la Ville doit faire ses efforts là-dedans et on est conscient de ça et ça pourrait régler passablement beaucoup de problèmes. Ce n'est pas les seuls problèmes, mais je pense qu'on pourrait donner un bon coup de main si on irait beaucoup plus rapidement dans la livraison des logements.
Je vais traduire un peu rapidement. We are with Annie Sanson, who is a municipal councillor in Jarry. And she's from Vision Montréal, and she's the, how do you say critic in English?
Critical.
Critic.
Critical.
The critic in housing and also urbanism. So she was talking to me about the fact that they had this prescottomètre, which I don't know, but like the in the opposition, there's always a critic, and it was a prescottomètre because Michel Prescott was the person, the conseiller responsible for housing and the 5,000 units that were promised for social housing that are supposed to be almost ready now, but there are only 640. And she was saying that since that housing has not been done, this is part of the problem, because the first problem, the reason why people are homeless, is because there are no homes. So by doing that, like, they're making sure that, you know, people stay homeless. So we need to make sure that those houses, well, those apartments are actually built so that everything can be, well, not everything, but a part of it for 5,000 people, actually, the problem might be solved. Bon, en parlant justement d'habitation, on va peut-être passer à Gaëtan Roberge qui s'occupe qui est au comité social, mais...
Comité logement Centre-Sud. Qui est situé au comité social.
Exactement.
Voilà.
Et peut-être nous parler justement de la situation du logement qui font en sorte que ça monte toujours, les chiffres montent toujours en itinérance.
Oui, d'accord. Bon, un peu pour parler dans le même sens que Mme Sanson, moi j'ai des chiffres peut-être légèrement plus élevés que les siens, à savoir que peut-être qu'il y en a autour d'un 100, 1300 qui pourraient être livrés, donc qui seraient en voie de l'être. Il est évident que, M. Prescott a payé de sa personne, ça va de soi, mais moi je ne veux pas en parler ni en bien ni en mal. Je veux juste dire qu'il n'est pas le seul responsable. Et que l'irresponsable, il y en a plusieurs. C'est au niveau des programmes, la lourdeur des programmes. Les fusions n'ont pas aidé. Le manque de financement de départ. Autant les gens et de l'administration et même des groupes de GRT qui font les projets. On peut dire que tout le monde s'est un peu traîné les pieds. Puis on leur avait demandé, je dirais, d'aller en vitesse un peu plus accélérée. Et on a regardé par rapport à ce qu'ils faisaient l'année passée. Puis on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas en vitesse normale, mais peut-être en vitesse lente. Ce qui est assez dramatique. Quand on a commencé à parler, on nous disait livraison 2003, là, les fameux 5000. Et là, c'est 2002-2003. Là, on parle de 2004 et je pense que ça peut être beaucoup plus loin. Hier, le ministre nous a dit qu'il voulait devancer 1300 nouveaux logements. Il va accélérer la livraison. D'accord, c'est beau, on est content, on veut bien. Mais moi, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Puis d'autant plus que, fondamentalement, on est toujours, je dirais, 10 ans en retard sur la réalité. Parce que les chiffres dont on parle, les logements dont on va construire, la fameuse opération 5000 logements, on aurait dû le faire il y a une dizaine d'années. On n'aurait pas le problème qu'on a en ce moment. Et le problème, c'est qu'on parle d'itinérance ici aujourd'hui, mais n'oublions pas qu'il y a des centaines de citoyens et citoyennes qui se ramassent à la rue, qui sont ramassés à la rue, qui vont se ramasser à la rue. Et il y en a un certain nombre parmi ces personnes-là qui risquent de devenir des itinérants et des itinérantes. Et en théorie, si les pouvoirs publics avaient été plus diligents, si le fédéral n'était pas désengagé en financement, si tout le monde y avait vu réellement, on aurait, en tout cas, on aurait certains problèmes de logement, oui, mais ça serait moins aigu qu'en ce moment. Puis là, il y a des gens qui risquent de tomber dans le filet. C'est tellement vrai que même le gouvernement s'est rendu aux arguments du Frappru en disant, effectivement, on va prolonger d'une année encore l'estimation au loyer. Fondamentalement, nous, on était contre parce qu'on était formé que c'est un plaster et que fondamentalement, de donner de l'argent aux propriétaires, c'est pas une façon de faire, parce que l'argent public s'en va dans les poches des propriétaires et ça faisait en sorte que même on loue des logements qui ne méritent même pas d'être loués. Ceci dit, ce qu'il faut, c'est de l'argent. Il en faut beaucoup plus. Et présentement, le gouvernement fédéral a sorti un petit peu de sous au niveau de logements abordables, mais ce programme n'a d'abordable que le nom. Parce que fondamentalement, encore une fois, je répète le mot fondamentalement, parce que je vais insister sur le fait que ce n'est rien, ce programme-là. On a besoin de cet argent-là, mais je pense qu'on devra nous le revendiquer pour en faire du véritable logement social et non pas du logement dit abordable.
Alors, I was talking with Monsieur Gaëtan Roberge, who is from the
Comité logement Centre-Sud.
I'm trying to translate to see if there's a translation. It's a committee that actually takes care of different rights for people who are renters and to make sure that people don't end up in the street, exactly.
Yeah.
And he was telling me how those units are really interesting. Like, I'm just going to, like, shorten the, but that the these this housing idea of like 5,000 units is really interesting, but that's not the main problem. The main problem is that it's still not affordable enough. It's still not done. Like right now we're talking about 5,000, but they're not even done. And we're also like talking about the fact that we need a lot more. For example, like this, the money that the government gives, like surplus for in order to be able to pay the rent at the end of the month that they give to certain people, is still enough because the money ends up going in the pockets of the owner and not of people who actually need the money. And speaking of which, like speaking of actually like affordable housing and everything, I have with me François Thivierge, who is an organisateur communautaire au Centre de l'Art Cormier, qui en fait avait fait une recherche très intéressante qui a, on ne pourra pas expliquer les cartes très en grand nombre, mais justement sur le fait que quand les logements ne deviennent pas abordables, donc on parle souvent de gentrification ou d'embourgeoisement, que le problème, en fait, de la rue en général, avec tous les phénomènes que ça implique, donc la prostitution de rue et des choses comme ça, augmente souvent dans le quartier. Et vous aviez fait une étude qui était vraiment pour le quartier du CLSC des Faubourgs à Montréal, donc un quartier vraiment central dans la ville de Montréal, qui est représenté dans énormément de grandes villes aussi au Canada.
Oui, bien, la recherche que j'ai faite, ça concernait le territoire qui est compris entre les rues, si on veut... le centre-ville dans le bout de la rue Union jusqu'à la rue de Delrémier, Iberville, c'est-à-dire Sherbrooke et jusqu'au fleuve. C'est un peu le centre-ville est, hein, on peut dire.
Saint-Jacques-Sainte-Marie.
Oui, c'est ça. Puis là, finalement, ce que j'ai remarqué, c'est un peu l'expérience. J'ai fait du travail de rue dans le temps des années 80, tout ça. Puis le phénomène qui s'est passé, c'est tout le développement économique et résidentiel du secteur. Il y avait énormément, il y avait à peu près 25 000 unités de maisons de chambre, on peut dire, dans les années 70, ici. Finalement, le quartier était déstructuré aussi au niveau économique. Donc, les chambreurs, c'était des gens démunis, les itinérants, tout ça, les clochards, comme on appelait à l'époque. Puis le phénomène qui s'est produit, bien, écoutez, c'est un phénomène de l'Université du Québec, hein, qui est arrivé, puis ça a fait un phénomène de gentrification qui a parti un peu le bal. Mais finalement, aussi, le village gay qui s'est développé dans le centre-sud. Puis ce que j'ai amené un peu comme hypothèse, c'est un peu il y a des zones structurantes dans un secteur, des zones qui vont favoriser le développement. Donc, dans ce secteur-là, tu avais le village, hein, le village gay, qui était une zone structurante. Tu as l'Université du Québec, qui fait en elle-même une zone, de tous ses secteurs d'activité. Il y a aussi le quartier chinois, qui est une zone en elle-même. Il y a le Vieux-Montréal, qui est une zone importante, hein, parce qu'il y avait énormément de pauvreté, de maisons de chambre dans le Vieux-Montréal, quand ça a tombé, ça, cette section-là. Puis, finalement, toutes ces zones-là... ont leur propre développement, mais en bout de ligne, ce que ça a fait, ça amène un développement qui chasse les marginalités. On pense au centre-sud ici actuellement, bien là, le village, qui fait en sorte que maintenant, il y a énormément de pression concernant la prostitution de rue. Les gens disent qu'il y en a plus qu'avant. Il n'y a pas plus de prostitution de rue qu'avant, sauf que le développement économique qu'il y a eu sur la rue Ontario fait en sorte qu'il y a une pression plus forte, il y a un choc culturel, si on veut. Là. C'est plus les mêmes fonctions. La rue est plus déstructurée comme elle était avant, donc elle a une nouvelle vocation commerciale qui ne fit pas avec les activités, si on veut, de prostitution de rue.
Qui est quand même un commerce, en fait, aussi. C'est une autre sorte de commerce.
Je présente ça comme une économie parallèle, underground. Puis, tout le secteur de l'Université du Québec, qui est un secteur où il y avait énormément de pauvreté autour, là, c'est rendu, il y a des condos, des commerces, tout ça. Puis, il y avait beaucoup de mendicité au début des années 80. La mendicité, finalement, elle a éclaté, hein? Là, c'est les jeunes qui sont plus sur Sainte-Catherine, au centre. Puis les plus vieux ont monté, entre autres, sur Mont-Royal. Donc, la marginalité avec ce développement-là, elle éclate aussi. Donc, toute la vie sur la rue, là, tout ce qui est en marge, finalement, puis qui change, hein, parce que, bon, c'est plus le clochard d'autrefois. Là, c'est une autre marginalité qui apparaît. Mais ça aussi, toutes les pressions de développement qui se passent actuellement, bien, favorisent l'éclatement de cette marginalité-là. Puis, c'est pas nécessairement une bonne chose parce que c'est plus difficile de rejoindre des gens, mais en même temps, c'est plus difficile pour les gens d'avoir accès à des services. Puis, quand on pense au niveau du logement, bien, ce qui fait aussi qu'il y a un éclatement, c'est que les gens déménagent. Hein? Les gens s'en vont ailleurs pour se loger, se mettent à plusieurs, ou bien trouvent des logements dans des secteurs qui sont plus déstructurés. Puis, ce qu'on peut se poser comme question, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que la pauvreté va être chassée hors de l'île de Montréal? Ça, on peut se poser comme question, ça comme question dans 20 ans, dans 30 ans.
C'est déjà commencé.
Oui. Et justement, François, quand on parlait des différentes choses, il y avait quand même, on parle aussi, tu sais, qu'on parle du problème, mais il y a aussi certaines solutions qu'on va parler, des unités qui se produisent présentement. Il y a énormément de choses d'aider. Oui, Gaëtan.
Ce que je voudrais dire en rapport au propos de monsieur, c'est que ce qui est très grave, c'est que les programmes présentement de logement social favorisent les familles. C'est correct, c'est bien. Mais la plupart des projets ne comprennent à peu près pas d'unité pour personne seule. Et ce que monsieur soulignait, le fait qu'il y a eu énormément de maisons de chambre qui ont été perdues. On a perdu 3 000 dans les quelques dernières années. Ça, c'est énormément au centre-ville. Et ces personnes-là ne savent plus où aller. Et forcément, bon, évidemment, on les chasse, ils s'en vont. Puis un phénomène du fait qu'on s'est rendu compte depuis les 3 dernières crises qu'il y a des gens qui ont été chassés de Montréal, qui ont dû aller dans les banlieues, soit au sud ou nord, Laval, Longueuil, tout ça.
On s'en va à l'est aussi.
On s'en va à l'est aussi, exactement, beaucoup à l'est. Et ce qui est très, très grave, c'est qu'il y a la population du Québec, il y a plus de personnes seules que de familles présentement dans les quartiers. Et on ne sait pas où les loger. Et le drame, c'est qu'il y a un nombre important d'itinérants qui sont devenus de nouveaux itinérants, je dirais peut-être depuis les 5 dernières années, qui étaient des personnes à revenus faibles, très faibles, mais qui avaient une chambre, qui avaient un toit. Mais parce qu'on les a délogés pour construire des hôtels, des condos, tout ça. Parce que le quartier, oui, je peux dire que c'est déstructurant. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il est apparu plein de petits hôtels ici qui ont chassé plein de gens. Et les hôtels, bon, ça profite, on le comprend, c'est du commerce. Néanmoins, c'était de l'habitation qui s'est perdue. Il s'en est perdu beaucoup. Mais ces personnes-là, pour un bon nombre, c'est leur milieu de vie. Elles veulent y demeurer et elles ne peuvent plus y demeurer. Et là, on s'en va vers des solutions. Même le gouvernement nous a parlé de ce genre de solution-là que nous, on trouve un peu désolante. On parle de la cohabitation. Pour moi, ce n'est pas une solution. Ça peut être temporairement, pour une minorité, en fait, c'est oui. Ça. Mais ce n'est pas une solution. Et là, on a un problème. Même nous, on veut du logement pour les familles, mais il faudra peut-être qu'on demande aussi beaucoup plus de sous pour faire du logement ou des studios parce qu'on va avoir énormément de besoins. Et un nombre important de personnes qui vieillissent et qui n'auront pas les moyens de se payer ce que coûtent des résidences personnes âgées. Donc, le problème de logement est un problème actuel. Les problèmes qu'on vit viennent de mauvaises décisions des années passées, pour ne pas dire de non-décisions. Et quand les gens pensent qu'avec quelques actions, on va, d'ici 2-3 ans, les choses vont se résorber, je ne partage pas ce point de vue-là. Je considère qu'on s'en va vers d'énormes problèmes.
Oui. Mais j'aimerais peut-être ajouter là-dessus aussi, oui, un problème de logement, je pense qu'on en parle, mais il y a aussi le niveau d'itinérance qui change. Je pense que lorsqu'on parlait d'itinérance il y a 10 ans, on voyait un vieux monsieur, une vieille madame. Maintenant, on parle de plus en plus de jeunes, donc de jeunes qui sont dans la rue. Et ça aussi, ça cause problème parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi. Nos programmes doivent s'adapter en fonction de ça. Et on a quand même, on peut compter sur un bon réseau de services de santé là, au niveau des organismes communautaires qui y travaillent aussi. Mais ça aussi, on doit s'ajuster en fonction de ça. Et c'est beau, oui, offrir un logement, mais si le jeune a besoin de plus aussi
support
autour, il y a ça aussi qu'il faut regarder.
Exactement. Dans les pistes de solutions, on va justement avoir le logement avec support communautaire qui est toute une nouvelle chose qu'on doit vraiment à laquelle on doit penser.
C'est la nouvelle réalité. Nos jeunes de la rue maintenant aussi ont besoin de support et c'est là-dessus qu'on doit aussi travailler.
Et Dr. Farquhar,
yes.
Are you still there? Sorry,
yes.
There's been a bit of French here.
Okay,
so we were talking about like the different ways as to people are in the street, but also like about that, Ms. Sanson just said that actually that one of the problems is that once they're living somewhere, they actually need some help, like some community support. And for mental illness, it's a big problem. Like once a person is in the street, and if you want them to be back somewhere, they really need help. You can't just put someone in a house.
That's right.
And have you looked into what kind of resources should be available, what kind of housing should be available for people in the street like that?
Well, we need a wide variety of housing. A lot of people who have mental illness, the kind that we're talking about, that is people who are disorganized and they take medication, even with medication, they're not at their best.
Mm-hmm.
They might not do well with their own apartment. We try to keep them in their own apartments. And I'm on a home visiting team, and our job is to keep them in their own apartments if we can.
Mm-hmm.
But some of them, they can only stay in a room and board kind of place. So we need lots of places like room and board kind of places, but we don't have enough of them
mm-hmm.
in the Montreal area. They're being saturated by homeless people. And some of them have fire problems, and some of them are burning down.
Yeah, and just to finish, François here also has a good example of like marginalization. Comme on parlait beaucoup d'urbanisation, justement, on a quelqu'un ici qui critique en urbanisation, où l'urbanisation est beaucoup centrée sur l'augmentation, disons, du chiffre d'affaires, souvent des rues centrales. Mais dans les différents projets, il y a aussi beaucoup de destruction.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Oui?
Oui, bonjour. Nous avons un représentant du cabinet du maire, je crois.
Non, je m'excuse, vous êtes Mme Vaillancourt?
Non, je suis Madame Roussy. Vous êtes en onde présentement.
Ah, écoutez, je téléphonais, moi, de la part de Mme O'Sullivan parce qu'on est en conférence actuellement à l'Université McGill. Et elle aurait pu vous parler, en fait, dans à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Elle prononce une conférence.
D'accord.
Alors, c'était simplement pour vous dire qu'elle peut communiquer avec vous tardivement, peut-être, mais dans environ 30 minutes.
Ce sera fantastique. On l'attendra alors. D'accord?
Ah bon?
J'ai dit ce sera fantastique. Dans une demi-heure, nous allons communiquer avec elle.
Je vous entends très mal.
Oui, on disait que dans une demi-heure, ce serait fantastique si elle pouvait communiquer avec nous.
Oui, vous pouvez communiquer avec moi.
Oui.
Jean Renaud.
Oui.
Écoutez, il est 6 heures. Probablement que dans une demi-heure, ce serait possible d'échanger ensemble.
Oui. Oui.
Alors, vous pouvez me rejoindre au 772-0112.
Oui, merci beaucoup.
Eh bien, merci. Au revoir.
Au revoir. Merci. Bon, ben. Revenons à ce dont nous parlons.
C'est du direct.
Ça, c'est vraiment du direct dans la rue au froid pendant que mes invités sont en train de se geler.
Et toi.
Et moi aussi. Mais moi, je compte pas. J'existe comme pas. Donc, on parlait justement d'urbanisation. On pourrait peut-être en parler un peu plus longuement. Mais justement du fait que le lieu public est en train de disparaître, en fait. Que le lieu public devient de moins en moins public. Et peut-être qu'il faudrait, quand on parle des gens de la rue, mais les gens de la rue vivent dans ce lieu public-là qui est supposément accessible à tous, mais dont eux doivent absolument vivre au jour le jour, comme nous, on vit dans nos maisons. Donc, peut-être parler un peu du développement du lieu public comme étant peut-être une possibilité pour au moins améliorer un peu le sort des gens sans-abri.
Ça, j'avais présenté dans un colloque à un moment donné, je parlais de l'espace public et l'espace privé. Un peu l'espace public-privé. C'est parce qu'on a beaucoup de places publiques intérieures ici. Hein, il fait froid, hein, des fois, ici.
Oui.
Puis, on aime ça aller se réchauffer. C'est qu'on a développé le plus grand réseau souterrain au monde. Hein. Les touristes viennent voir ça à Montréal. Là. Il y a même des panneaux qui indiquent ça au centre-ville. Puis, ce réseau souterrain-là, on parle du métro, mais de toutes sortes de couloirs au centre-ville, et aboutit à des espèces d'espaces commerciaux, hein, qui sont comme des espaces publics, mais c'est privé. Puis ça, c'est...
Ça, c'est public, ça.
C'est des gens qui vous encouragent.
Mais
disons.
Ça, à ce moment-là, ces espaces-là sont contrôlés par des polices privées. Hein, ils en parlent d'ailleurs de la sécurité privée.
Aujourd'hui, on en parle.
C'est ça, oui. La police veut diminuer.
C'est problématique, hein, parce que vous rentrez, exemple, à l'UQAM, vous avez une sécurité privée qui est là. Vous rentrez à Place des Jardins, c'est une autre sécurité. Vous rentrez à Place du Puy, c'est une autre sécurité privée. Chaque espace a sa sécurité. Nous, on est dans la norme, on ne les voit pas. Hein? Mais quand moi, j'ai travaillé longtemps sur la rue avec les gens, on se promenait, on était souvent arrêtés. Donc là, tu te fais arrêter par ces sécurités privées-là. Puis ça, c'est problématique pour moi, parce que ça donc, tu n'as pas d'espace public vraiment libre. Tu sais? Puis si on regarde à l'extérieur de ces espaces-là, l'espace public, on n'est pas fort là-dessus en Amérique. Là. Hein? C'est de plus en plus normé. Puis, il n'y a pas... sur la rue Sainte-Catherine, là, entre la rue Saint-Urbain et le parc Émilie-Gamelin, bien, il n'y a pas de banc. Hein? Essayez dans l'espace ici de vous asseoir pour manger une sandwich, là, le midi, là, vous allez avoir des problèmes parce qu'il n'y a pas de banc. Le parc Émilie-Gamelin, c'est bien beau, là, comme ça, sur une maquette, là, mais en réalité, il n'y a pas grand espace pour s'asseoir là. Fait qu'il y a pas... c'est pas convivial. Je donne un exemple, le carré Saint-Louis, c'est très bien, c'est très beau. Il y a une mixité sociale intéressante, on sent sécurité. C'est un espace intéressant, le carré Saint-Louis. Mais il n'y a pas beaucoup d'espace intéressant au centre-ville. Puis on dirait qu'ils ne sont pas intéressés à en faire non plus. Puis il y a une différence entre un parc et une place. Hein?
Oui.
Un parc, on peut avoir des tickets pour toutes sortes de choses, surtout quand on n'est pas dans la norme. Puis une place publique, bien là, ça peut être occupé par un grand nombre de personnes. Puis c'est une place conviviale. Mais ça, on n'en a pas... je pense qu'il en reste peut-être une ou deux à Montréal, des places publiques. Là.
Et partout aussi, là, dans presque toutes les grandes villes, c'est vraiment quelque chose qui s'en vient commun, là, d'essayer d'annuler, en fait, l'espace public pour les personnes qui... ça devient leur espace privé à eux aussi. Donc, on nous reste environ une minute. Est-ce que vous avez chacun... Moi, on parle toujours d'améliorer le sort. On parle justement d'améliorer l'espace public. Est-ce que vous avez une idée ou un concept, quelque chose d'intéressant qui peut faire en sorte que peut-être il y aurait une amélioration? On sait très bien qu'on ne va pas enrayer, malheureusement, l'itinérance dans une minute, mais une façon d'améliorer quelque chose ou un souhait que vous avez justement pour que quelque chose soit amélioré
à Montréal, par exemple?
Bien, écoutez, juste le fait d'avoir fait l'émission ce soir avec vous sur le trottoir à moins 15 dehors, je pense que ça nous fait réaliser que les sans-abri qui vont dormir ce soir, il va faire froid. Je pense qu'on devrait trouver des solutions. Moi, en tout cas, évidemment, je ne suis pas au pouvoir, mais ce que j'aimerais, c'est que peut-être que nos stations de métro, le soir, soient ouvertes pour ces gens-là.
Comme à Paris.
Qu'ils puissent avoir au moins quelque chose, passer une nuit au chaud. Avec la sécurité, il n'y a pas de problème, mais au moins les ouvrir. On a des